Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue dans notre émission Mare Nostrum qui vous invite au voyage en Méditerranée pour mieux la connaître avec ses pays, ses peuples, ses civilisations. Et aussi une histoire commune, particulièrement riche, quelquefois très tendue, quelquefois beaucoup moins. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le 102e numéro de notre magazine et nous allons parler du droit romain dans un domaine particulier, qui est la place de la femme dans la société romaine, plus précisément le contrôle du corps des femmes, le contrôle des femmes en quelque sorte, à travers le délit, et je mets des guillemets bien évidemment, le délit d'adultère. Et je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez déjà, il s'agit donc de Julien Duboulos, bonjour.
Bonjour Raymond.
Vous êtes professeur d'université et vous êtes depuis peu directeur de l'Institut de recherche sur l'architecture antique.
Absolument. Enfin,
j'y suis arrivé au bout. Qui est donc un laboratoire de la MSH, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix, qui fait partie de d'AMU, Aix-Marseille Université. Et nous sommes bien sûr partenaires depuis de nombreuses années déjà avec cet établissement. Votre spécialité, c'est donc l'histoire antique, bien évidemment. Et vos axes de recherche actuels portent sur les institutions politiques à Rome, entre République et Haut-Empire, c'est votre période de prédilection, et sur l'aspect juridique des phénomènes familiaux, sociaux, économiques dans cette même période. Hein, je crois qu'on est...
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Très bien, je n'ai pas raté mon introduction. C'est parfait. Alors, ce sujet donc sur la place des femmes, le contrôle des femmes, le contrôle des corps des femmes, c'est quand même un sujet qui est intéressant. Parce qu'il fait aussi partie un peu de l'actuel. Quand je dis un peu, d'ailleurs, c'est peut-être... Non, il ne faut pas dire un peu. Qui fait partie de l'actualité. Et donc, cette actualité nous renvoie, bien sûr, à cette période de l'histoire antique. Et voilà, donc, je vous demande un peu de me dire ce que vous pensez de ce rapport entre les deux.
Alors, c'est une question que se posent toujours les historiennes et les historiens. Qu'est-ce qu'on fait avec... notre passé par rapport au présent, et on se dit parfois que le passé va nous donner les clés de compréhension du présent, mais je crois que c'est une illusion. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même des phénomènes qui sont très récurrents, qui se déploient de manière très différente selon les sociétés et les périodes. La domination masculine, elle est présente dans nos sociétés, elle est en discussion dans nos sociétés. La domination masculine, elle est très présente dans les sociétés anciennes. Elle est, il faut bien le reconnaître, pas mise en discussion dans les sociétés anciennes, et à Rome, elle n'est pas mise en discussion. Elle est là, elle est présente, elle est aussi chargée d'ambiguïté, si on prend les femmes romaines, les citoyennes romaines, alors on les appelle comme ça quand on fait cours, et on dit qu'elles sont citoyennes, et en fait, il y a des tas de débats pour savoir si on peut dire qu'une femme est citoyenne à Rome. Elle n'a pas tous les droits du citoyen. En revanche, et ça nous amène au thème d'aujourd'hui, la femme transmet la citoyenneté par le mariage et par les enfants qu'elle conçoit et auxquels elle donne vie dans le mariage. Donc en cela, la femme est porteuse d'une citoyenneté dont elle-même ne bénéficie guère. Et ça se voit notamment dans la manière dont le droit, plus ou moins, protège les femmes, garantit le corps des femmes d'une violence qui est la violence de la société et qui est d'abord la violence de leur environnement familial, de leur père, de leur mari. C'est pour ça que je crois que c'est intéressant de parler de l'adultère, parce que quand on travaille sur la répression de l'adultère à Rome dans l'Antiquité, on s'aperçoit que pendant très longtemps, et c'est vrai tout le temps d'ailleurs, le contrôle sur le corps des femmes et la répression de ce qu'on appelle les fautes sexuelles des femmes, c'est-à-dire en fait d'une activité sexuelle de la femme hors mariage, tout cela est entre les mains d'abord de la famille, mais un beau jour, on peut peut-être enlever l'adjectif, d'ailleurs un jour, par une loi que fait passer Auguste, celui qui est le créateur du régime impérial, entre 18 et 16 avant notre ère, on peut à peu près la dater, un jour, l'État romain, l'autorité publique, s'empare de la question de l'adultère, l'arrache, l'enlève en partie, mais en grande partie, à la zone privée, à la zone intime, et en fait un crime public, ce qui, on va le voir, est très ambigu. C'est-à-dire que c'est une manière de mettre sur la place publique ces questions-là qui sont des questions très intimes, et ça ne protège pas en cela le corps des femmes, mais en même temps, cette loi, elle neutralise en partie, elle encadre la violence familiale, la violence du père, la violence du mari sur les femmes. Donc c'est en ça c'est un thème, je crois, intéressant.
Mais ça ne renforce pas justement cette pression privée? Le fait que ça devienne, ça rentre dans un cadre juridique public.
Eh ben c'est ce qu'on va voir.
C'est ce qu'on va voir. Ouais. Alors on va en discuter voilà. Après. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est justement cette transmission de citoyenneté par la femme qu'on retrouve par exemple dans les sociétés judaïques. C'est intéressant de savoir qui remonte justement à ces périodes-là. Donc ça voudrait peut-être dire que c'est une... C'est une pratique assez courante, peut-être. Je ne sais pas. Hein.
Oui, mais c'est
divague peut-être un peu.
Non, je ne crois pas. Mais c'est une pratique qui correspond, alors pour les choses que je connais moins mal, pour le monde grec ou pour le monde romain, ça correspond au fait que les communautés sont organisées sur une échelle qui est très, très inférieure géographiquement aux communautés nationales qu'on connaît, qui sont un peu les nôtres. Et c'est des communautés dans lesquelles la citoyenneté est réservée à la cité et... à l'intérieur de la cité, à un groupe fermé, en fait. Ce sont des sociétés à citoyenneté fermée, et qui se posent toujours la question de la transmission de cette citoyenneté. Or, le vecteur de transmission, c'est d'abord la transmission héréditaire. Il y a des variations d'une cité à l'autre, d'une période à l'autre, mais c'est quand même ça la clé. Et donc, le corps des femmes, il est au centre de tout ça. Et la fidélité des femmes, parce qu'on veut s'assurer, ce qui est complètement idéologique, évidemment, et politique, on veut s'assurer que l'enfant naît à l'intérieur du mariage, et qu'en cela, il peut figurer dans le corps civique.
Oui, c'est exactement ce que je pensais, c'est une assurance.
Oui, c'est une vaine assurance.
Oui, une vaine assurance, c'est une assurance.
Elle est vaine, mais elle n'en est pas moins extrêmement violente, puisque le corps des femmes est très étroit, le plus possible, étroitement contrôlé, d'abord par la famille, mais en cela, elle n'est que la courroie de transmission de normes sociales et de normes juridiques.
Alors, merci pour cet éclairage et pour ce rapport justement avec quelque chose dont nous parlions tout à l'heure hors micro, c'est-à-dire ce rapport du présent au passé, qu'il ne faut surtout pas dévoyer, qu'il ne faut toujours pas utiliser de n'importe quelle façon. Alors, cette partie donc, du droit romain, il est intéressant aussi, on va développer bien évidemment tout ce qui concerne la femme, il est intéressant aussi dans la mesure où le droit se construit, et à travers cet exemple, on voit un peu quelque chose, le droit qui se construit. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Comme j'ai l'habitude de poser comme question aux gens avec qui je m'entretiens, les problèmes de source, voilà. Donc c'est quand même intéressant que vous nous donniez quelques éléments là-dessus.
Et oui, bah le droit romain, c'est aussi une source qui est, quelque part, qui se promène entre notre présent et le passé romain. C'est une source absolument, absolument fascinante. Ce qu'on peut peut-être en dire, alors sans faire un cours sur le droit romain, sinon on y sera encore dans 5 jours, mais ce qu'on peut peut-être en dire, et la représentation qu'il faut qu'on en ait, c'est que d'abord ça a été justement sur le droit de la famille, mais sur le droit des biens, sur le droit des contrats, tout ce que nous on appelle le droit civil, en France, au moins jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, le droit civil, c'est le droit romain. Quand est promulgué le code Napoléon en 1804, en fait, sur tous ces domaines, notamment de la famille, c'est une traduction, véritablement parfois très très proche, du droit romain. Les concepts sont les mêmes, et c'est pas un hasard s'il y a une grande traduction du digeste, qui est le code de droit romain, qui paraît l'année d'avant la publication du code civil. Donc en fait, nous sommes entièrement héritière et héritier de cette structure du droit romain. Maintenant, alors je ne suis pas juriste de profession, mais le droit, depuis la fin du XXe siècle, il évolue considérablement, notamment à la faveur de l'intégration dans l'Europe. Hein, où là, il y a d'autres traditions juridiques qui se mélangent, qui se surimposent. Mais nous pensons en droit romain, et des expériences assez quotidiennes qui sont la location d'un appartement ou l'achat d'une maison sont pensées par les notaires avec des concepts qui sont du droit romain. Donc ce droit, il est très présent. Et en même temps, ce qui est merveilleux quand on fait de l'histoire de l'Antiquité, c'est que c'est totalement exotique. Et donc ce sont des concepts qu'on croit connaître, mais si on les projette dans la société ancienne qui nous intéresse à Rome, alors c'est merveilleusement exotique et merveilleusement différent. Et pour parler de ce droit romain, je le fais très mal. Quelqu'un qui le faisait excellemment, c'est un grand juriste qui est décédé maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années, qui s'appelait Yann Thomas, qui était un extraordinaire penseur, qui avait une formation de juriste et d'historien. Et c'est Yann Thomas qui, d'une certaine façon, a, pour les historiens, amené le droit, donné le droit comme matériau à l'histoire. Jusqu'alors, le droit romain, c'était une spécialité des facultés de droit, en France, comme en Italie, par exemple, et donc c'était la chasse gardée des juristes, qui s'en servaient pour penser le droit présent. Yann Thomas l'a enlevé ou l'a emprunté aux juristes qui étaient en train de le laisser tomber, d'ailleurs, parce qu'on enseigne de moins en moins le droit romain dans les facultés de droit, et il l'a donné comme matériau pour l'historien, en disant cette chose qui est très belle, qui paraît très simple peut-être quand on la formule, en disant le droit n'est pas extérieur à la société. Et donc, l'historien de l'Antiquité peut-être doit, plonger dans le droit pour connaître ce que sont les structures de la société en se disant que ça n'est pas une superstructure, quelque chose qui est forcément une contrainte extérieure et à laquelle on se plie malgré soi, mais que le droit reflète les exigences sociales, les valeurs, la morale, et qu'à son tour, le droit construit les pratiques et les valeurs. Donc il a plongé le droit romain au cœur de la société. Et ça, c'est une chose qu'on lui doit et qui est extrêmement précieuse.
Oui, c'est consubstantiel au fonctionnement de la société. C'est
oui,
ça.
Des nôtres aussi, mais sans doute qu'on se dit... D'abord, on tend le plus possible à ne pas avoir affaire avec la justice, si on peut.
Vaut mieux.
Et donc, peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être qu'on a tendance à considérer qu'effectivement, le droit est un autre monde. Et de fait, quand on lit les journaux, la justice a son langage, a ses rites, etc. Et on a peur d'en approcher. Et on sait bien que ces rites, ils sont là aussi pour impressionner. En fait, le droit fait partie même de nos structures de pensée, sans qu'on le sache probablement souvent.
Alors voilà, on a bouclé à peu près les introductions à vos travaux. Et je vous propose, on va souffler un petit peu, hein, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Portimiro de Monteverdi. On a vu l'importance par rapport donc à la femme dans la famille, et on va donc revenir sur la famille. Comment se structure la famille à Rome? Est-ce que le mariage, c'est un élément particulièrement important de la société romaine? Est-ce que ça structure quelque part la société romaine?
Alors oui, le mariage est central. Précisément, le mariage qu'on dit légitime, le mariage reconnu par l'État, qui est le seul à avoir pour effet de créer des enfants qui ont la citoyenneté, hein, des filles ou des garçons qui sont citoyens. Donc c'est vraiment clé. Alors, au niveau de l'organisation du corps civique, c'est clé aussi au niveau de l'organisation des familles qu'on connaît le moins mal, qui sont les familles de l'élite politique, où le mariage, là, est utilisé, comme c'est traditionnel dans les sociétés anciennes, est utilisé comme une arme ou comme un instrument d'alliance, en fait, non pas entre un homme et une femme, mais entre deux hommes, entre un père et le père de la fille de son fils, on s'est compris, entre deux pères qui marient leurs enfants, ou bien entre un homme qui épouse une femme, mais à travers la femme qui l'épouse, c'est le père de sa femme qui l'épouse. Donc oui, c'est central pour toute l'organisation de la société. Mais ça se construit à l'intérieur d'une structure familiale qui est, pour nous, très étrange, et qu'il faut un tout petit peu déplier. Donc, j'allais dire accrochez-vous, c'est pas très compliqué, mais il faut en fait quitter absolument, et c'est ça qui est merveilleux, il faut quitter nos représentations à nous. Pour nous, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle, la famille, c'est en gros la famille nucléaire. Hein. Bon, on peut en discuter d'ailleurs, mais c'est quand même un peu le schéma qui s'impose, en tout cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Oublions ça. À Rome, la famille est complètement différente. Choisissez, prenons un homme qui est père de famille, pater familias. Sa famille, ce sont celles et ceux qui sont sous son autorité, sa puissance, sa potestas en latin, la puissance paternelle, la patria potestas. Et elle s'exerce sur plusieurs générations. Un père exerce sa puissance sur celles et ceux qu'il a engendrés dans le mariage, ses filles et ses fils. À la génération d'après, les petits-enfants, la puissance du père, elle, du grand-père du coup, elle s'exerce sur les fils et les filles de ses fils. Elle se transmet en ligne masculine. Et même à la génération suivante, cet arrière-grand-père, s'il est toujours vivant, il exerce sa puissance sur les filles et les fils des descendants par les hommes de ses fils. Donc, une structure de pouvoir, ça s'appelle puissance, ça s'appelle potestas, une structure de pouvoir à l'intérieur de la famille, construite comme ça, sur plusieurs générations, en ligne masculine. Et c'est ce schéma-là dont il faut partir, cette famille élargie dont il faut partir. Alors, pas le temps de raconter, on pourrait faire 5 émissions dessus sur ce que c'est que la puissance du père. La chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que tant que ce père ou grand-père ou arrière-grand-père est vivant, tous ceux qui sont dans sa puissance n'ont aucune autonomie. Donc c'est le pater familias qui choisit précisément les conjoints de ses enfants.
Pour les 4 niveaux.
Pour les 4 niveaux. Alors, ce qu'on voit justement un peu dans le droit romain, c'est qu'un grand-père, en gros, consultera quand même le père des enfants qu'il va marier. Donc, il y a une forme de collaboration, d'une certaine façon. Mais il est le détenteur de cette autorité-là. Et surtout, c'est lui qui a cette chose si importante, c'est le patrimoine. Tous ceux qui sont dans sa dépendance ne possèdent absolument rien. Donc, vous pouvez être un homme adulte, marié, homme politique, magistrat de votre cité, et n'avoir aucun patrimoine parce que votre vieux père est encore là. Ça, c'est une structure, alors que Yann Thomas, ce juriste que j'évoquais tout à l'heure, a énormément évoqué, qui est merveilleuse d'exotisme, et qui est aussi une très très forte structure de domination. Il y a tous les enjeux de la capacité d'un père de famille à prononcer et à exercer la peine de mort sur quelqu'un qui est dans sa puissance. Alors, pas dans n'importe quelle circonstance, mais la structure est là, elle est très forte. Et pour revenir à ces questions de mariage, en fait, alors c'est une structure de nomination, mais c'est une structure aussi qui est très porteuse et d'une certaine façon très favorable, parce que si vous naissez à l'intérieur d'une structure de ce type-là, vous êtes appelé à hériter, justement, de votre pater familias. Si en revanche, vous naissez à l'extérieur de cette structure-là, vous êtes hors famille. Un enfant qui est conçu hors mariage n'a pas... Alors, il a un géniteur, forcément, mais il n'a pas de père. Et donc, il n'héritera pas de son père, et donc il est inintéressant du point de vue de l'économie familiale et des enjeux sociaux. Ce qui explique pourquoi les enfants nés hors mariage, soit les mères qui se retrouvent enceintes, les femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles ne sont pas mariées, soit elles font tout pour s'en débarrasser avant la naissance, soit ces enfants sont exposés, abandonnés dans la rue. Et là, soit ils meurent, soit ils sont récupérés par quelqu'un qui passe par là, et qui en fait non pas leur fils, ou leur fille, mais leur esclave. Donc c'est une structure extrêmement forte et qui encadre précisément le corps des femmes, puisque, je le répète, tout se joue là, dans la transmission de la citoyenneté. On pourrait dire plein d'autres choses. Si on regarde la position de la femme dans cette famille, alors il faut, c'est pas le plus important, mais en même temps on part de domination sur les femmes, et du coup c'est extrêmement important. À la mort de son père, À la mort du père, un fils devient lui-même père de famille. En revanche, les filles ne deviennent pas père de famille. Une fille n'a pas de potestas. Parce que le droit romain reflète des structures mentales, des structures intellectuelles, qui qualifient les femmes comme intrinsèquement faibles, intrinsèquement inférieures. Et il y a quelque chose de contradictoire entre une femme et l'exercice d'une puissance. Donc une femme qui n'a plus de père n'est pas autonome, ne devient pas un sujet de droit autonome, elle passe sous tutelle. Et cette tutelle, elle dure extrêmement longtemps. Pendant toute la période impériale, les femmes sont plus ou moins sous tutelle. Alors ce sera la tutelle d'un parent du côté paternel le plus souvent, un oncle paternel, un frère du père, ou un frère de la femme en question. Et tout acte juridique important, et notamment l'acte juridique le plus important qui est celui de transmettre des biens, ne peut se faire pour une femme que sous tutelle. Parce que les femmes héritent de leur père, comme elles sont dans la puissance de leur père, elles héritent de leur père à égalité avec leur frère. Mais une fois qu'elles sont détentrices d'une partie du patrimoine paternel, elles n'en font pas ce qu'elles veulent. Il y a toujours un tuteur, jusqu'à leur mort, un tuteur qui est là pour, en tout cas, donner la pleine force juridique à l'acte de transmission. Dans les faits, il y a des femmes, notamment dans les familles aisées, et des femmes qui n'ont plus de frères, qui n'ont qu'un lointain oncle, qui sont suffisamment autonomes pour faire à peu près ce qu'elles veulent. Mais elles ont besoin, juridiquement, pour donner une pleine force aux actes juridiques qu'elles font, elles ont besoin de cette présence masculine. Et elles sont en permanence sous domination. Elles sont des éternelles mineures, dit le droit romain. Je finis de déplier un peu ma famille romaine. Et le mariage, qu'est-ce qu'il en arrive? Alors nous, on se dit, avec les schémas occidentaux qu'on a, valables encore moins d'ailleurs de nos jours, on se dit, bien, une femme qui se marie passe dans la famille de son mari. Pas du tout. Alors, dans un mariage qu'on appelle le mariage dans le régime de la main, dans un mariage plus ancien à Rome, celui qu'on pratique jusqu'à la fin de la République, puis qui après disparaît à peu près complètement, la femme passe dans la famille de son mari. C'est-à-dire qu'elle devient, disent les juristes, la fille de son beau-père, elle devient la sœur de son mari. Elle est mariée locofiliae, comme sœur. Donc, elle est bien la femme de son mari, mais elle est aussi juridiquement sa sœur, ce qui fait que quand son beau-père meurt, elle va hériter au même titre que son mari. Ou bien, quand son mari meurt, elle héritera au même titre que leurs enfants. Donc une structure très curieuse pour nous.
Ah oui, c'est plutôt bizarre. Oui.
C'est plutôt bizarre. C'est plutôt bizarre. Ah, oui. Elle change de groupe familial. Ça, c'était un type de mariage relativement ancien, qui disparaît. Celui qui est le plus attesté à partir du 1er siècle avant notre ère, c'est le mariage sans le régime de la main. C'est le mariage dans lequel la femme reste dans la famille de son père. Tout le temps. Et donc, une femme... Sous ce régime-là, une femme n'est pas de la famille de ses enfants. Les enfants sont dans la puissance de leur père, d'ailleurs ils ont le nom de leur père, ils récupèrent le nom de famille de leur père. Leur mère reste dans la famille de son propre père, donc une femme n'est pas dans la famille de ses enfants. Ça n'empêche pas tous ces gens de vivre ensemble, hein, mais il y a toujours ça. Et donc la femme est toujours encore cet espace de référence juridique et plus que ça, dans la famille paternelle. Et on va s'en servir de ça au moment de la répression de l'adultère, puisque la répression de l'adultère, elle est entre les mains, non pas premièrement du mari, pendant très longtemps, mais d'abord entre les mains du père, de son propre père. Voilà à peu près, alors il y aurait plein d'autres choses à raconter, mais voilà à peu près comment ça se construit, cette relation familiale, cette structure familiale, si étrange pour nous, si exotique.
Ah oui, c'est d'une rigidité.
Oui.
Ah, c'est...
Ouais,
c'est, ouais. C'est fermé, c'est...
Mais c'est du droit.
C'est du droit, ouais, oui.
C'est bon, alors, après, ça n'empêche pas les sentiments, si je puis dire. Mais...
Vraisemblablement, enfin, on peut l'imaginer.
On peut l'espérer, presque. mais effectivement, si on s'intéresse à cette structure... Alors, on est quelque part entre le droit et l'anthropologie familiale, mais oui, cette structure-là, elle est parfaitement rigide. Et elle est parfaitement... Si je puis dire, elle est parfaitement solide. C'est-à-dire que cette structure-là, elle est valable jusqu'à la fin de l'Empire romain.
Moi, je trouve ça... extraordinaire, en particulier le fait que la femme perd sa qualité de fille de monsieur machin, quoi, en quelque
Alors,
sorte.
Dans ce mariage, dans le régime de la main, oui.
Ouais. C'est invraisemblable. Comme, enfin, en même temps c'est l'associer à sa progéniture et à son mari.
Oui.
Donc c'est vrai que ça...
Et donc ça correspond assez bien au schéma qu'on a, nous, en fait. Un peu plus,
c'est vrai,
d'une certaine façon. Ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, quand elle se marie et que son mari a un père, elle passe dans la puissance du père de son mari.
Oui.
Ça, pour nous, c'est... Et que du coup, juridiquement, elle devienne la sœur de son mari, ce qui pour nous est véritablement très étrange. Mais c'est pensé comme ça par les juristes. Et c'est une des choses qui est merveilleuse dans le droit romain, c'est son inventivité. Sa capacité, alors c'est là encore, j'emprunte ça à Yann Thomas, sa capacité à construire de la fiction. Personne, enfin tout le monde sait très bien comment ça se passe du point de vue physiologique. Mais le droit peut recombiner les choses. Comme ça, peut inventer une société par ces formes de combinaisons qui font que, juridiquement, une femme est la sœur de, peut être la sœur de son mari dans ce vieux type de mariage.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de potestas pour les femmes?
Non, non.
Ça n'existe pas.
Non,
c'est même si elles sont seules dans la vie, et elles ont de toute façon un tuteur.
À tel point qu'il y a même des actes juridiques pour lesquelles elles-mêmes requièrent la présence d'un tuteur. Alors à ce moment-là, on demande aux magistrats romains de leur donner un tuteur qui n'est pas quelqu'un de leur famille, mais elles en ont besoin pour donner leur pleine force à l'acte juridique. Elles seules ne peuvent pas le porter.
C'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment... C'est,
oui, oui, oui.
C'est une situation... Je comprends pourquoi vous êtes attaché à cette étude.
Absolument. Et après, j'ai l'impression de terriblement le simplifier, mais en gros, c'est ça. Et ce qu'on peut retenir, c'est ça que je trouve très beau, c'est la nécessité de changer complètement nos schémas de pensée.
Ouais.
Et c'est ça qui est beau dans l'histoire. C'est pas que l'histoire nous aide à préparer le présent, c'est pas vrai, je crois.
Absolument.
C'est que l'histoire nous emmène extrêmement loin, au contraire.
Tout à fait, tout à fait. Même si on trouve des analogies, vous parliez du statut de la femme, le statut des femmes en France, par exemple, quand est-ce qu'elles ont été autorisées à signer des chèques en 1960, un truc comme ça, 60-62, dans ces eaux-là.
Et c'était fondé dans un droit qui héritait absolument.
Qui héritait du droit romain. C'est
tout
ça.
À fait. Et cette fragilité, alors il y a le mot latin qui est terrible, qui est imbecilitas. Alors c'est pas l'imbécilité au sens.
Enfin, on a tendance à le penser quand on l'entend.
Ouais. Cette faiblesse intrinsèque de la femme, elle a été admise pendant extrêmement longtemps. Hein. Effectivement, jusque dans des sociétés très, très, très contemporaines. Ouais.
Terrible. Ouais. On fait une pause musicale avec la Clémence de Titus de Mozart. Thank you. Ce qui est intéressant également, c'est que finalement, ce mariage, il apparaît comme un véritable acte civique, on pourrait presque dire nécessaire, peut-être pas obligatoire, mais presque, pour certaines catégories de citoyens.
Alors, il y a même un moment où on peut dire que ça devient légalement une obligation. Mais effectivement, c'est en tout cas moralement et socialement une obligation pour un citoyen et pour une citoyenne de se marier pour avoir des enfants. Et du coup, le divorce est aussi une obligation si le couple ne produit pas d'enfants. Alors, comme d'habitude, si je puis dire, là, dans ces sociétés de forte domination masculine, on accuse toujours les femmes de stérilité.
Absolument.
Et donc, il y a les formes de répudiation que l'on connaît, qui sont... Alors, il y a des tas de débats, même chez les auteurs anciens, pour savoir quand ça commence, mais les formes de répudiation qu'on connaît, c'est toujours parce qu'on... Alors, soit parce qu'on accuse une femme d'adultère, et qu'à ce moment-là, on ne veut pas la garder comme épouse, et on ne doit pas, socialement, la garder comme son épouse, soit parce qu'elle est stérile, et que l'on veut avoir des enfants, et qu'on doit, socialement, avoir des enfants. Et puis, donc c'est une obligation morale, et un jour, si je puis dire, justement, au moment des lois qu'Auguste promulgue, au moment où il réorganise la société romaine, on est dans les années... dans les années 10 avant notre ère, juste après une longue période de guerre civile, Auguste établit un pouvoir personnel, il établit ce qui devient une monarchie, mais il établit un pouvoir, il réorganise l'État romain, et sa réorganisation de l'État romain, qui couvre tous les secteurs de l'État, les institutions, la religion, elle couvre aussi le droit, et une des lois d'Auguste vise à rendre le mariage une obligation. Alors, elle concerne cette loi tous les citoyens, mais en premier lieu, les citoyens des ordres supérieurs de la société, et notamment ce qu'on appelle l'ordre sénatorial, c'est-à-dire le groupe qui, en gros, détient la responsabilité dans l'État. Un des deux groupes qui détient la responsabilité dans l'État à côté de l'autre groupe qu'on appelle les chevaliers. Sans rentrer dans le détail, au sommet de l'État, le mariage est une obligation. Et la loi met en place des systèmes de récompense pour les hommes mariés et qui ont des enfants, en accélérant leur carrière politique, et inversement, de pénalités pour les hommes célibataires ou sans enfants, avec là aussi des systèmes de pénalités, on limite leur capacité à hériter, par exemple. Donc une très très forte contrainte sociale qui devient une contrainte légale, dans la perspective, qui est celle d'Auguste, de reconstituer l'État et avant tout de reconstituer le corps civique. De refaire des citoyennes et des citoyens, et aussi de moraliser le corps civique. Donc oui, c'est bien une obligation.
C'est une politique nataliste.
Oui, on parle de la politique démographique d'Auguste. Oui.
Ouais, c'est ça.
Alors, ce que les historiennes et les historiens se demandent sans pouvoir répondre, parce que sur ces sociétés anciennes, on ne peut pas... Alors pourquoi on peut le dire? Mais est-ce que ça a marché? Ça, on ne peut pas le dire. Et sans doute, à tout le moins, quand bien même cette loi n'aurait pas eu véritablement des conséquences sur la démographie des citoyennes et des citoyens romains, ben ça, pour le coup, alors on a des éléments chiffrés, mais c'est très difficile de les évaluer. En tout cas, il y a une très forte idéologie à l'arrière-plan, et c'est là on la sent véritablement. Donc oui, c'est un acte civique de se marier, absolument, voire une obligation légale.
Une obligation légale, donc on ne peut pas savoir si c'est le peuplement de la cité, si c'est...
C'est quand même probablement à ça qu'Auguste pense, ouais. Effectivement. Ou en tout cas, un geste qui met en avant les citoyennes et le rôle de chacune et de chacun de s'intégrer à sa façon, de s'impliquer dans la création, dans la vitalité de la cité, en faisant des enfants, dans le mariage.
C'est bien.
Ça ressemble bien à une politique nataliste.
Voilà, ça ressemble tout à fait. Quoi, hein. Alors, donc, les femmes, donc, le contrôle sur les femmes, le contrôle sur le corps des femmes, fait que leur statut, le statut des femmes est très, très cadré, par les lois, et en particulier par les lois d'Auguste.
Absolument, et c'est là qu'on peut, commencer à voir comment est organisée la répression de l'adultère. Mais plus globalement, l'image qu'on peut à peu près avoir de ces femmes romaines, qui est un peu opposée aussi à ce qu'on voit dans les films, celles et ceux qui ont vu la série Rome, la série des années 2000, cette série américaine, où il y a des magnifiques personnages féminins, mais qui sont pour le coup, eux, vraiment pas très vraisemblables, parce que la liberté que ces femmes se donnent ne correspond pas du tout à ce qu'elles pouvaient concrètement faire, et aussi à ce qu'on attendait d'une femme, surtout une femme de la haute société. Donc c'est une société dans laquelle le contrôle exercé sur le corps des femmes est très très fort, alors avec... répression de toute forme de sexualité hors mariage, puisque c'est là vraiment l'enjeu, mais plus globalement aussi des attentes quant à leur comportement quotidien, hein, le respect des valeurs de la pudicitia, de la pudeur, et aussi des formes de contrôle, pas rigoureuses, mais quand même, de leur sortie dans l'espace public. Il y a notamment un geste ou un élément du costume féminin qui est le voile, hein, qui ne cache pas le visage de la femme, mais qui encadre son visage et qui est d'une certaine façon, et qui couvre le haut du corps. Le geste de pudeur consistant notamment à ne pas trop montrer ses mains, hein, mais aussi ce voile qui cadre le visage, disent les textes, est là aussi pour limiter le regard de la femme. Elle peut se promener dans l'espace public, mais elle, d'une certaine façon, symboliquement, elle ne peut pas tout voir. Donc un contrôle très fort, et qui est aussi, et c'est très souvent le cas, un contrôle qui est intégré par ces femmes. C'est-à-dire qu'une femme qui veut trouver une forme de place dans la société, elle ne peut le faire qu'à travers le mariage, quand elle devient une matrona, une femme mariée, et que si elle réussit à incarner les valeurs de la dignité, de la pudeur qu'on attend d'une femme mariée. Donc ces contraintes, elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont intégrées dans la conduite des femmes. Mais, à côté de ça, il y a effectivement une très forte répression de l'adultère, qui a toujours existé, mais qui est repensée par Auguste, et c'est là qu'on touche le plus véritablement, à travers les textes juridiques, c'est là qu'on touche à la force et à la violence même, hein, de ce contrôle sur le corps des femmes. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'on ne laisse pas à une femme le choix de son compagnon, de son mari, mais c'est que en cas d'adultère, la répression est extrêmement forte. Extrêmement forte, et c'est, à partir d'Auguste, l'État même s'en occupe. Et c'est ça qu'on peut essayer de déployer.
Oui, d'ailleurs, les textes que vous m'avez fait passer sont extrêmement violents à ce propos-là.
Absolument, ouais.
Vraiment, c'est surprenant. Je ne sais pas si j'en ai encore... Oui, il y a ce texte de Papinien sur les adultères, là. Mais s'il a été permis à un père et non à un mari de tuer une femme et toute personne qui a commis l'adultère avec elle, c'est que le plus souvent, le sentiment qui s'attache au rôle de père incite à la raison envers les enfants. Ouais. C'est-à-dire, en gros, le père peut tuer la femme parce que, comme ça, il tuera pas le fils, quoi.
Oui, alors ce texte-là est vraiment intéressant. Ça vaut la peine peut-être de partir de lui ou de voir dans quel cadre il s'insère. Donc, jusqu'à la loi d'Auguste, la répression de l'adultère est une répression uniquement à l'intérieur du cercle familial. Et en gros, c'est le père et les frères qui s'en occupent. On ne sait pas, à vrai dire, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où va cette répression, probablement pas jusqu'à la mort de la femme, mais en tout cas jusqu'à des formes d'incarcération dans l'espace domestique. On éloigne ces femmes à la campagne et on les enferme à la campagne et peut-être qu'après on les réintègre, etc. Donc il y a évidemment une énorme violence, hein, et qu'on voit à peine dans les textes. Et effectivement, on peut imaginer, malheureusement, que cette violence pouvait aller jusqu'à la mise à mort. Quand Auguste établit une loi sur l'adultère, alors la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève l'adultère à la répression familiale. Alors on peut se dire, ouf, enfin, les femmes bénéficient d'une forme de protection légale, et si il y a eu adultère, l'État empêche, et c'est vrai en partie, l'État empêche la vengeance du père ou la vengeance du mari. Donc, d'une certaine façon, on peut avoir l'impression que c'est une loi qui est favorable aux femmes. Mais il faut être extrêmement prudent, parce qu'il faut comprendre à peu près la structure globale. Donc, en cas d'adultère, qu'est-ce qui se passe? En cas d'adultère, dit la loi, le mari est obligé de dénoncer sa femme. Le mari ne peut plus fermer les yeux sur l'adultère, ce qui était probablement le cas avant, et ce qui pouvait arranger tout le monde, y compris pour des raisons d'honneur familial. Parce qu'un mari qui doit reconnaître publiquement que sa femme le trompe, il s'expose à une forme de ridicule dans ce type de société-là. Donc, sans doute, on mettait un peu les choses sous le tapis. En théorie, un mari ne peut plus le faire. La loi dit des choses qui, pour nous, sont très étranges. C'est-à-dire que, en cas d'adultère, si l'adultère est constaté, le mari doit dénoncer sa femme, ou bien le père doit dénoncer sa fille, et si ni l'un ni l'autre le font, au bout de 60 jours, n'importe qui dans la cité a le droit de le faire. On organise une forme de délation publique, parce que la sexualité est devenu un objet public, un objet de préoccupation publique. Et l'adultère est devenu un crime public. Et donc, n'importe qui peut dénoncer un crime d'adultère. C'est un délit public. Le mari ou le père doivent dénoncer la femme adultère, si c'est le mari qui le fait, et de toute façon, le mari doit divorcer. Il doit répudier sa femme, d'abord parce que juridiquement, un mari ne peut pas poursuivre sa femme s'il est encore marié avec elle. Donc, pour des raisons juridiques, il doit se séparer d'elle, il doit la répudier dès le moment où il la dénonce, ou avant d'aller la dénoncer, la poursuivre en justice, et puis aussi pour des obligations morales. Et un homme qui est accusé de ne pas avoir dénoncé l'adultère de sa femme peut être accusé de proxénétisme, c'est-à-dire d'avoir laissé faire ou d'avoir bénéficié de l'adultère de sa femme. Et le proxénétisme ouvre sur une condamnation sociale à l'infamie. Donc les maris, ça plaisante plus, c'est-à-dire que soit on cache très bien les choses, soit on s'expose. Le mari s'expose à une condamnation sociale. Voilà la structure globale, hein, cette obligation faite au mari ou au père de mettre sur la place publique l'adultère. Il n'empêche que le régime des peines, pour autant qu'on le connaisse, une fois que l'adultère est constitué en délit public, le régime des peines est précisément non pas la mort, mais la relégation de la femme dans un domaine éloigné de sa famille, et donc quand même des formes d'incarcération, hein, ça, on ne plaisante pas, et puis la perte de sa dot aussi pour cette femme. Et puis, à l'intérieur de ça, la loi prend en compte le meurtre de la femme par son mari ou par son père. C'est-à-dire que la loi admet, tout en le limitant, ces violences familiales qui existaient avant. Et c'est tout le thème qui a existé encore dans notre droit jusqu'à il n'y a pas très longtemps, d'une forme de circonstance atténuante liée à l'honneur du père, à l'honneur du mari. Alors, si on détaille un peu, pas trop, mais un tout petit peu, ce que le droit permet au père et ce que le droit permet au mari, on arrive au texte que vous avez cité, qui est aussi assez étrange. Alors, que dit la loi ? Alors, pas la loi elle-même, pas la loi Julia, justement, mais la jurisprudence sur cette loi, c'est-à-dire toute cette littérature écrite par des juristes entre le 1er siècle de notre ère et le 3e siècle de notre ère, à qui on soumettait des cas précis, alors soit des particuliers, soit des juges, ces individus qui formaient souvent un cercle autour de l'empereur et qui interprétaient la loi, qui donnaient l'esprit de la loi. Et ce sont ces textes-là qu'on a gardés, compilés, réduits, dans ce qu'on appelle le digeste, qui est une compilation de droit romain, promulguée comme un code civil à Byzance, au 6e siècle de notre ère, donc dans une autre ère géographique et culturelle. Mais à travers ce texte-là, on remonte à la jurisprudence romaine. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette jurisprudence romaine ? Elle dit qu'un père a le droit de mettre à mort sa fille et l'amant de sa fille, mais dans des conditions très strictes, hein, sous le coup de la colère. Donc il doit les prendre en flagrant délit. Seulement si l'adultère a lieu dans sa propre maison, dans la maison du père, parce que là on estime véritablement que son honneur est menacé. Hein. Et donc, là, on a des textes qui sont d'une violence atroce, en fait, à travers les formules juridiques. C'est qu'il y a quelqu'un qui demande à un juriste, mais en flagrant délit, tu veux dire quoi ? Là, tout de suite, maintenant ? Et le juriste dit, le flagrant délit, c'est là, tout de suite, maintenant, en acte, enfin, pendant l'acte sexuel, dit le texte. Et puis le juriste dit, on peut admettre que si la femme s'enfuit, eh bien, pendant quelques heures, on la pourchasse, et si on l'attrape, on la tue encore en flagrant délit. Donc là, on a des scènes qui se dessinent devant nos yeux, qui sont d'une très grande crudité. Et puis, il y a cette idée du père qui tue l'amant de sa fille. Et effectivement, et là, s'ouvre un autre monde, d'une certaine façon. Un juriste, Papinien, dit que la loi précise qu'un père ne peut tuer l'amant de sa fille que s'il a tué en même temps sa fille, que s'il tue aussi sa fille. Et le juriste dit, c'est plutôt une règle favorable dans la mesure où on sait qu'un père répugnera à tuer sa fille. Et donc, en fait, la loi, d'une certaine façon, protège les hommes adultères en obligeant les pères à tuer aussi leur fille. C'est fou. Et en même temps, à l'intérieur de ce texte-là et de son immense violence, il y a cette idée quand même que le juriste reconnaît qu'entre le père et la fille, il y a un rapport affectif et qui fait que le père répugnera à tuer sa fille. C'est ça le texte très étrange.
Ah oui, c'est vraiment un texte très étrange. On fait une pause musicale encore. On va écouter donc un extrait de la symphonie Roma de Georges Bizet. Thank you. Alors, voilà pour la femme, Julien Duboulos. Maintenant, et le mari, qu'est-ce qui devient dans l'histoire ?
Alors, le mari dans les histoires d'adultère, qu'est-ce qui devient ? La première chose, c'est qu'il ne risque rien. Parce qu'un homme adultère, personne ne le poursuit. Devant les tribunaux, il n'y a pas d'accusation d'une femme contre son mari. Un mari peut commettre l'adultère sans problème. Alors, sans doute, il n'a pas tellement intérêt à se faire attraper en flagrant délit d'adultère, parce que là, le mari ou le père de la femme avec qui il commet l'adultère peuvent lui tomber dessus. Mais, en substance, ce qu'il faut il faut partir de là, c'est cette dissymétrie totale. La répression de l'adultère ne concerne que les femmes. Là où on voit les maris, dans la jurisprudence sur l'adultère, c'est que se pose pour eux, comme pour le père de la femme, la question de « est-ce qu'un mari a le droit de tuer sa femme ?» La réponse, à partir de cette loi d'Auguste, c'est non. Un mari qui tue sa femme, et c'était vrai avant d'ailleurs, un mari qui tue sa femme, il commet un meurtre, et donc il est poursuivi pour meurtre. Mais la jurisprudence dit « il y a des cas où, non pas on peut exonérer complètement un mari du procès, mais où on peut plaider les circonstances atténuantes, c'est pas autre chose que ça, et c'est pas autre chose que ce qui est resté dans notre droit jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je crois que ça disparaît, heureusement, un peu maintenant. Mais qu'est-ce qu'on dit ? On dit que... Qu'est-ce que dit la jurisprudence ? La jurisprudence dit qu'on peut admettre qu'un mari cède au justus dolor, à la juste douleur de l'homme déshonoré. Et donc, eh bien, si cédant à la juste douleur, parce qu'il surprend sa femme en flagrant délit d'adultère, il tue l'amant de sa femme, eh bien, la peine de ce meurtrier, de cet homme qui est devenu meurtrier, sera allégée. Elle sera allégée, et là, on rentre dans un autre domaine du droit romain qui est très étrange, c'est que, sur tout le droit de la période impériale, c'est que le droit fait une différence dans le régime des peines selon la situation sociale, aussi bien de l'homme qui a été tué que du mari qui a tué cet homme. Donc, évidemment, c'est évident quand on travaille sur les sociétés anciennes, mais quand on le dit comme ça, c'est terrible. Un homme qui tue l'amant de sa femme, si cet amant est un homme de basse condition, un affranchi, un ancien esclave, ou quelqu'un qui lui-même a déjà été poursuivi pour proxénétisme, alors la peine sera allégée. Ou bien, si l'homme qui tue sa femme appartient à la haute société, eh bien on allège sa peine et on le condamne à l'exil plutôt qu'à une peine beaucoup plus rigoureuse. Donc peut-être ce qui est le plus frappant dans tout ça, c'est quand même que ce droit romain, au nom de l'honneur, fait rentrer la valeur qu'est l'honneur de l'homme, masculin, viril, fait rentrer cette valeur à l'intérieur de la structure juridique. Donc globalement, cette répression de l'adultère qui est prise en charge par l'État, on voit comment elle donne la place à des valeurs sociales qui, pour nous, sont évidemment choquantes, mais qui sont centrales dans ce type de société ancienne. Mmh.
Et donc, ça, c'est la situation des hommes. Et quand vous nous avez également évoqué la situation des femmes, finalement, on se demande qu'est-ce qui peut les lier dans le mariage. Est-ce qu'il y a de l'affectif ? Alors, on a parlé un peu d'affectif entre le père et sa fille, le père et son fils. Mais entre le mari et la femme, on n'en voit pas beaucoup.
Non, on n'en voit pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça n'y est pas, c'est toujours la même histoire, c'est qu'il faut chercher ailleurs, parfois. Alors là, c'est bien, c'est beau que vous, pour moi, que vous posiez cette question, parce qu'il y a une personne qui a réfléchi sur ce thème-là, qui est Paul Venn, ce très très grand historien aixois d'origine, qui a disparu il y a très peu de jours, et qui est pour nous... Nous qui faisons l'histoire grecque et l'histoire romaine, qui est une figure tutélaire. Alors c'était quelqu'un d'assez lointain, qu'on n'atteignait pas. C'était un monsieur très très âgé, qui avait enseigné très longtemps au Collège de France, et que moi, je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer. Mais quand on fait l'histoire ancienne, on l'a lu, parce qu'il a écrit sur beaucoup de choses, et un peu sur tout, parfois des choses qui ouvrent à la discussion, mais c'est une figure tutélaire. Et il y a un très bel article de Paul Venn qui s'appelle « La famille et l'amour sous le Haut Empire romain », paru dans la revue des Annales en 1978, ça renvoie un peu, mais qui a beaucoup marqué. Et Paul Venn suggère, et après lui, Michel Foucault, qui était un grand ami de Paul Venn, dans le dernier ouvrage publié de Michel Foucault, qui est le troisième tome d'Histoire de la sexualité, dont le titre est « Le souci de soi », Foucault, après Venn, ou tous les deux, suggèrent qu'il se passe quelque chose, du point de vue du mariage, entre la République et l'Empire. Alors, la République, jusqu'à la fin du 1er siècle avant notre ère, est visiblement, si on regarde les sources, une période dans laquelle l'affection dans le mariage n'a pas cours. Et ce qui apparaît dans les sources, c'est la valeur instrumentale du mariage. Hein. C'est un homme qui épouse une femme, mais qui épouse en fait le père de cette femme. Et donc, dans ces conditions-là, et c'est les représentations aussi qu'on a jusqu'à un certain point du mariage dans les sociétés de la période moderne en Occident, hein, jusqu'à un certain point, du coup, le mariage n'est pas le lieu de l'affectivité. Il est pensé, il sert à complètement autre chose, hein, à unir des familles et à faire des citoyens et à faire des enfants. Sous l'Empire, des sources, notamment le grec Plutarque, qui vit entre deux mondes, hein, entre la Grèce et Rome au début du IIe siècle de notre ère, mais aussi un philosophe stoïcien qui s'appelle Musonius, mais aussi d'autres auteurs, donnent tout à coup un autre éclairage sur le mariage dans lequel l'affectivité semble présente. Alors, pour raconter un peu ce que disent Venn et ce que disent Foucault, qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine façon, le mariage devient à un moment un problème, hein, pour employer une expression chère à Foucault. Le mariage est problématisé. C'est-à-dire, en gros, qu'on s'y intéresse. Et que tous ces hommes, parce que c'est toujours des hommes qui écrivent, tout à coup, vont dire des choses sur les valeurs de la cité, en parlant du mariage, en parlant de la relation homme-femme, ce qui est ça assez nouveau, visiblement, à partir de sous l'Empire. D'abord, ils disent que la relation mari-femme est une relation qui a une valeur éthique, et que, du coup, il peut y avoir, et c'est le début, il peut y avoir une amitié, une relation affective entre un homme et une femme. Ce qui, pour nous, nous paraît quand même assez normal, mais ce qui, dans une société de la domination masculine et dans une société qui regroupe les hommes entre eux, ne va pas de soi. La philia, au sens grec, ou l'amitié, l'amicitia latine, normalement, c'est une affaire d'hommes. De gens qui sont des égaux, socialement, de gens qui ont une culture, notamment une culture politique, qui partagent les mêmes valeurs, alors que les femmes, elles sont enfermées dans la sphère domestique. Tout à coup, on se met à dire, ah non, il peut y avoir une relation de philia entre un mari et une femme. Ce qui est posé, ce qui revient à poser, du point de vue théorique, qu'il y a une forme d'égalité possible. Alors attention, ça n'empêche en rien la domination masculine, hein, mais il y a un espace de pensée, en tout cas, qui s'ouvre et qui suggère que hommes et femmes peuvent être unis par une véritable affection. Hein, parce que la femme est un sujet moral, d'une certaine façon. C'est pas qu'elle l'était pas avant, mais on le reconnaît plus, on l'identifie plus dans les sources. Le résultat de ça, un peu paradoxal, ou pas paradoxal d'ailleurs, c'est que la sexualité, qui est en fait le vrai sujet des gens qui écrivent sur ce type de sources, Plutarque ou les philosophes stoïciens, la sexualité est d'une certaine façon sauvée quand elle est à l'intérieur du mariage. Globalement, notamment chez les philosophes stoïciens, la sexualité est condamnée pas comme un péché, la notion de péché est complètement absente, mais elle est condamnée comme un désordre, comme toute forme d'émotion, comme toute forme de passion. Et donc, il faut s'en méfier, et l'idéal, c'est quand même un peu de s'en passer, si on veut se maîtriser soi-même. Et donc, la sexualité dans le mariage, à condition qu'elle soit limitée dans le mariage, et même qu'il n'y en ait pas trop quand même, hein, là, elle peut avoir un sens. Non pas, dit Plutarque, dans un très beau texte, qui est le dialogue sur l'amour, non pas, dit Plutarque, parce qu'on tire du plaisir de la sexualité, hein, il dit le plaisir, en gros, ça dure pas très longtemps, mais parce que la sexualité, dit-il, est le ciment du couple. Et ce qui fait, il emploie une métaphore politique, il dit c'est comme un traité, c'est comme re-signer un traité, hein, la sexualité. Et donc, dans ce cadre-là, la sexualité a un sens, elle a une valeur, parce qu'elle construit du lien social. On retrouve le même thème que tout à l'heure chez les juristes, mais d'une autre façon. Donc, dans ce cadre-là, la sexualité a un sens, et donc l'affection qui va avec, quand même, a un sens. Elle est reconnue, cette sexualité, mais elle se resserre dans le mariage. Et le bout de cette, pas de cette évolution-là, mais de cette lecture-là, hein, qui est parallèle avec l'autre, en fait, qui ne vient pas l'effacer complètement, le mariage est toujours une obligation sociale, est toujours un instrument, est toujours un lieu de grande violence. Mais parallèlement à ça, cette autre lecture qu'on donne du mariage comme une des formes, et peut-être une forme idéalisée du lien social, elle conduit donc à réduire la sexualité dans le mariage. Alors pour la femme, ça a toujours été vrai, mais aussi pour les hommes. Et il y a un moment où la fidélité devient une forme de valeur, hein, y compris pour les hommes. Ces textes-là, que Foucault met beaucoup en avant, qu'il dit magnifiquement dans Le Souci de Soi, eh bien, ils font un pont, très curieusement, avec ensuite la société chrétienne de l'Empire tardif. Non pas
parce que ça annonce le christianisme. Hein, le christianisme est une rupture totale et il a d'autres schémas de lecture. Mais on trouve là des formes de rigorisme aussi, d'exigence de contrôle de soi, qui auront des très forts échos dans le christianisme. Parce que les premiers pères de l'Église sont profondément plongés dans la culture philosophique que nous on appelle païenne. Et donc c'est eux qui font le pont, qui vont chercher ces valeurs-là. Plutarque n'annonce pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui, d'une certaine façon, sans doute, les premiers penseurs chrétiens, qui ont lu Plutarque ou qui ont lu les philosophes stoïciens. Et ce qu'il faut lire, c'est Paul Venn et Michel Foucault.
Oui, on ne manquera pas. C'est bien d'avoir cité Paul Venn, bien sûr, qui était aixois, qui était d'Aix, et qui est un très grand de l'histoire. Finalement, à Aix, on en a pas mal.
Oui, mais lui avait quand même pour spécialité... Enfin, il faut en lire, mais il faut s'accrocher, parce qu'une des choses très belles que faisait Paul Venn, c'était de caramboler le présent et le passé. Et donc de faire des comparaisons très, très dérangeantes. Et alors, on peut avoir le réflexe de l'érudit qui va voir les sources et qui dit « Oh, bah, c'est pas vrai ce qu'il disait Paul Venn, il déforme les sources. » Mais Paul Venn savait bien qu'il déformait les sources. C'est un homme qui produisait de l'idée par la rencontre explosive des comparaisons, des métaphores, en nous dérangeant. Et surtout en arrachant le passé à cette forme un peu marmoréenne du passé. « Oh, c'est l'Antiquité !» Et non, pas du tout, ça peut se bousculer. Et ça, c'est ça qui était extrêmement beau et fécond dans sa démarche.
Ah oui. Et c'est donc entre lui et Plutarque, il y a des siècles et des siècles, mais avec une démarche qui est un peu, je veux dire, c'est pas la même démarche, bien évidemment, mais qui peut être un peu associée, qui peut être un peu... il y a des choses qui se rapprochent, on va dire.
Oui, c'est vrai. Ouais. Plutarque...
qui a rajouté cette notion affective, cette Absolument. Notion d'affection. Ouais. On pourrait presque croire que ça n'existait pas avant.
Ça existait, mais ça l'intéresse. Lui, ça l'intéresse. Dans un très, très beau texte, le dialogue sur l'amour, où, en fait, ce qu'il fait parler aussi, c'est le monde grec et le monde romain.
Oui, bien sûr.
C'est aussi l'idée de philia grecque qui l'intéresse. Et il s'intéresse aussi à la relation pédérastique et aux amours entre hommes. Il compare ce type d'amour-là à l'amour entre l'homme et la femme, et il produit un discours très subtil, en fait. Il condamne ni l'un ni l'autre, il ne hiérarchise ni l'un ni l'autre, mais voilà, il donne sa place à une relation homme-femme qui a sans doute toujours existé, mais là qu'on voit émerger dans nos sources. Et pour nous, malheureuses antiquisantes et antiquisantes, tant que c'est pas dans les sources, on le voit pas.
Eh oui, bien sûr. En tout cas, on va conseiller à nos auditeurs d'aller lire cet ouvrage, Dialogue sur l'amour de Plutarque. Ouais. Ils y trouveront beaucoup de choses intéressantes. Julien de Voulose, merci beaucoup pour cet exposé sur l'adultère et sur le droit romain, particulièrement intéressant. J'espère que je vous accueillerai encore une autre fois parce que c'est un plaisir.
Je vais finir par y prendre goût.
Je sais, vous allez y arriver. Merci beaucoup. À bientôt donc, et je dis à bientôt également à nos auditeurs. Et voilà, à la prochaine.
Merci, volontiers.